Sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai la chance d'avoir un invité, Jean-Baptiste Réblé. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es chargé de mission à Métier Culture et tu viens aujourd'hui, entre autres, nous parler du programme Affranchi, programme de mentorat féminin. Alors, avant que de te laisser la parole, je vous propose, chers auditeurs, de faire un détour jusqu'en Ukraine. Voilà, je me contorsionne un peu, j'essaie de dompter notre nouveau studio. Merci à la CEVEC, au passage, qui nous permet d'avoir ce nouveau matériel. Alors, je vous propose d'écouter des messages d'étudiants ukrainiens, voilà, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, on mettra le lien. Dans le podcast de cette émission. Alors, voilà, écoutons-les.
The College Ready Foundation sent messages of support from College Ready stations all around the world to the student radio stations and people of Ukraine. We're honored to share the responses of students from across Ukraine who have now recorded their messages for the world to hear. The students use their cell phones to record while sheltering from the war. Thanks to Stut Radio for coordinating and producing this audio and for all the students who contributed.
Hi, I'm from Lviv and I need your help whenever you are. I love my city, my country, and will never give it away to anyone. I beg you, support Ukrainians. Get out on the streets and don't be afraid to say the truth out loud. Together, we will stop this horror.
Hello, I'm from Kyiv and I want you to know truth. Our cities are under fire of Russian occupants, and I'm worried about my family. Support our country. You never know when the war will be near your home.
I'm from Chernobyl, and my brave, free country is dying, so I ask you, please, if you see that your government doesn't do enough or just nothing, act, go to the rallies. If you can, donate money, spread the real information. Just don't be silent, because each of us kid of the world, and we need your help.
My name is Zvenka. I am a sophomore sociology student, and because of war, I cannot attend classes anymore. Stop Russian aggression.
Hello. I live and study in Kharkiv, but actually I'm from Donetsk. So I know that the actual war started not several days ago, but 8 years ago, in 2014. And it's not scary anymore, I'm not panicking. All I have left is an attempt to help my country to get out of this Russian oppression.
Hi, I'm from Primorsk, and I just want to wish peace and prosperity to my country and its citizens. I want people to live peacefully and happily without any war that would be going on the lands of Ukraine.
Hi, my name is Sofia. I'm 17 years old. I'm from Ukraine. I was born in Donetsk, but now I live in Kyiv, and what is happening now is just terrible. This is a real war. Russia has attacked Ukraine and is bombing houses and strategic facilities. I will have to go through this horror again, as in 2014. I felt it in Donetsk, but managed to leave for Kyiv.
I am from Zhytomyr. On February 24th, Russia declared war on my country, and I was forced to leave the house where I had lived all my life. And now, I appeal to the whole world. Stop Putin.
Hello, I'm from Nadvirna, but now I'm in Lviv doing my best to help my country fight for herself. We're strong together and with your help, but now we really need more. Slava Ukraini! Heroim Slava!
Voilà, vous venez d'entendre des témoignages d'étudiants ukrainiens. Donc, ce document sonore a été réalisé par Roman Zajac de la Stud Radio à Lviv en Ukraine et Rob Quick du College Radio Foundation. Nous montrons le lien vers ce contenu dans le podcast de cette émission. Alors, c'est pas facile de trouver une transition, Jean-Baptiste Reblay, pour parler de métier culture après avoir diffusé ces témoignages d'étudiants ukrainiens. Mais bon, on va quand même tenter de le faire. Alors, peut-être veux-tu tout d'abord nous expliquer ce qu'est métier culture ?
Oui, donc métier culture, c'est une plateforme qui traite des questions d'emploi, de formation et de compétences dans le champ de la culture en région Centre-Val de Loire. Donc concrètement, on a plusieurs missions autour de ces questions d'emploi, de formation, de compétences. Une mission de concertation de l'ensemble des acteurs de la culture sur comment justement aborder ces questions-là. Une mission d'observation de l'emploi, des besoins en formation, en compétences dans le champ de la culture en région en réalisant différentes enquêtes qui peuvent être thématiques ou généralistes sur l'emploi dans la culture en région. Une mission de ressources sur ces questions-là. On peut informer les acteurs sur leurs droits à la formation, les entreprises aussi sur leurs obligations par rapport à la formation professionnelle. On publie aussi des offres d'emploi sur notre site internet dans le secteur de la culture en région. On a également une mission d'accompagnement à la mise en place de dispositifs économiques et socio-économiques innovants. Voilà, donc on, par cela, on entend la mise en place de groupements d'employeurs, par exemple, que l'on peut accompagner, la mise en place de coopératives d'activité et d'emploi pour sécuriser les parcours professionnels des acteurs dans le champ de la culture. Et enfin, on a une mission de mise en œuvre d'actions d'accompagnement et de formation pour les acteurs de la culture en région. Donc on peut organiser des actions de formation, mais aussi des actions d'accompagnement via différents dispositifs, comme celui d'Affranchi, qui est notre programme de mentorat féminin.
Voilà, alors tu as parlé de groupement d'employeurs. Peut-être veux-tu nous donner des exemples, parce que peut-être nos auditeurs ne voient pas bien de quoi il s'agit.
Alors, j'ai pas d'exemple particulier en tête dans le secteur de la culture en région. Ça se fait beaucoup dans le secteur du sport. Et ce sont des organismes qui vont embaucher des personnes plutôt sur des fonctions support et qui vont les mettre à disposition de différentes structures. Tout ça pour mutualiser plutôt des postes plutôt que d'avoir d'avoir des salariés qui sont à mi-temps, à tiers-temps, sur plusieurs postes, plusieurs structures. Ils sont employés par le groupement d'employeurs qui les mettra à disposition des structures en question, ce qui va permettre à la personne qui est employée dans le groupement d'employeurs d'avoir un CDI avec ce groupement d'employeurs et de pouvoir être mise à disposition par un système de prestations, de facturation à différentes structures, plutôt que d'être embauché simultanément par ces trois structures dans des conditions qui peuvent être parfois précaires. Si je suis plutôt clair.
Alors, par exemple, tu vas me dire si je me trompe, ouais. Admettons qu'il y ait trois structures culturelles qui aient un besoin en communication ou en administration, mais pas suffisamment pour faire un temps plein. Est-ce qu'elles peuvent, par exemple, se répartir, entre guillemets, le temps de travail d'une personne qui aurait ces compétences ?
Oui. Par exemple, ces trois structures, elles peuvent créer un groupement d'employeurs qui est pour les trois structures et elles vont embaucher, enfin ce groupement d'employeurs va embaucher cette chargée ou ce chargé de communication qui sera ensuite mis à disposition sur les trois structures suivant leurs besoins, ce qui permettra à cette personne de signer un CDI avec le groupement d'employeurs, donc du coup d'avoir tous les avantages d'un salarié à temps plein, et de pouvoir travailler sur différentes structures dans des conditions sociales, on va dire, relativement sereines.
Et tu disais tout à l'heure aussi sécuriser les parcours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Entre autres, ça veut dire un petit peu ça, justement, aller vers des emplois plutôt stables, des emplois plutôt temps plein quand c'est possible, salariés en CDI permanent quand il y a des besoins. Donc ça veut dire un peu ça, aller vers des conditions un peu moins précaires aussi en termes de rémunération, au niveau social aussi, pouvoir bénéficier des avantages du salariat. Donc c'est un petit peu ça qu'on entend, nous, par la sécurisation des parcours professionnels. C'est plutôt être sur des questions de temps plein de salaire convenable.
Alors comment on peut, par exemple, sécuriser un parcours intermittent ?
Peut-être via ces logiques de groupements d'employeurs, effectivement, qui peuvent être des solutions pour mettre à disposition plutôt des personnes sur différents événements, etc. Il y a aussi, qu'on entend par sécurisation, professionnelle, c'est toutes les questions de formation, donc former aux nouveaux besoins, aux nouveaux enjeux, etc., bah, pour permettre aux intermittents ou aux salariés d'être employés plus facilement, puisque ils répondent aux nouvelles exigences du marché du travail, on va dire, avec notamment la crise Covid aujourd'hui et le transformation numérique qui a quand même bousculé pas mal les besoins en compétences, etc., où on a besoin de compétences, de nouvelles compétences sont créées pendant la crise Covid et les acteurs ont besoin d'être formés dessus pour pouvoir mieux répondre à ces nouvelles exigences créées en partie par la crise Covid. Ça passe aussi par des actions de formation.
C'est quoi ces nouvelles compétences? Par exemple, travailler à distance, tout ce qui est numérique?
Par exemple, je pense à ce qui est live stream, donc qui est quelque chose qui a été appris sur le tas pour les lieux de diffusion de concerts qui ont dû cesser leur activité avec la crise Covid, mais qui petit à petit ont repris une activité des activités de résidence, mais aussi par des activités de live stream, etc. Donc ça nécessite des compétences que des chargés de production, des régisseurs, etc., n'avaient peut-être pas forcément ces capacités de pouvoir organiser un live stream, tout simplement. Donc c'est des choses comme celles-là qui me viennent à l'esprit.
Et donc, Métier Culture, vous avez aussi une mission d'observation et d'enquête. Je crois qu'en ce moment, il y a quelque chose autour des chefs de chœur. Est-ce que tu veux nous en dire plus?
Oui. On mène, en plus de ces missions, de priorisation des parcours, avant de pouvoir mettre en place des actions d'accompagnement, il faut observer, donc savoir ce qui se passe un petit peu, quels sont les besoins autour de l'emploi, des nouveaux besoins en formation que je vais un petit peu d'évoquer. Et donc, on mène actuellement effectivement une enquête avec le CEPRAVOI, donc qui est la Fédération des chœurs en Centre-Val de Loire, une enquête sur l'emploi des chefs de chœur justement en région, pour mieux comprendre comment les chefs de chœur sont embauchés, si ce sont plutôt des auto-entrepreneurs, si ce sont plutôt des salariés en CDI, CDD, en temps plein, en temps partiel, etc. Dans quelles conditions aussi ils sont embauchés. Les chœurs se sentent à l'aise sur leur fonction d'employeur aussi. Parce que les chœurs sont souvent des petites structures associatives, avec des bénévoles, donc ils ne sont pas forcément toujours à l'aise avec la fonction d'employeur. C'est un petit peu tout ça qu'on cherche à observer pour pouvoir derrière justement mettre en place des actions pour sécuriser les parcours professionnels des chefs de chœur. Donc ça peut être des actions de formation, des actions de mise en place peut-être d'un groupement d'employeurs aussi, ça pourrait être une solution pour les chefs de chœur pour pouvoir mieux répondre à cette fonction d'employeur d'un côté, et puis offrir des parcours un peu plus stables pour ces chefs de chœur.
Alors pour une telle enquête, comment ça se passe? Vous allez directement sur le terrain pour rencontrer les équipes, vous faites des interviews de chefs de chœur, comment ça marche?
Alors nous, on a plutôt choisi l'approche quantitative, donc on a constitué un comité de pilotage, donc on est plutôt sur une enquête avec collecte de données, etc., formulaire collecte de données avec une approche quantitative. Donc on a un comité de pilotage donc avec le CEPRAVOI, l'Université de Poitiers, on a un sociologue de l'Université de Poitiers qui est spécialiste justement de cette question de l'emploi des chefs de chœur qui nous accompagne là-dessus, qui nous a aidé à concevoir le questionnaire. On a plusieurs instances aussi, l'IFAC qui travaille au niveau national sur les chœurs qui nous accompagne là-dessus, et donc on a conçu un questionnaire autour de ces questions d'emploi. On a fait même deux questionnaires pour être précis, un à destination des chefs de chœur pour comprendre comment ils sont embauchés et comment ils sont rémunérés aussi, et un autre pour les chœurs pour savoir un petit peu comment eux ils embauchent leurs chefs de chœur, si c'est ça passe par de l'embauche déjà, parce qu'on peut être sur des chefs de chœur aussi bénévoles. Donc il y a deux questionnaires comme cela. Donc pour l'instant, on est dans la phase de collecte des données qui va s'achever très très bientôt. Et on passera au traitement de ces données donc avec Guillaume Lurton, donc, qui est le sociologue qui nous accompagne là-dessus. Donc il va nous faire des analyses et nous permettre de nous dégager des constats et des préconisations pour mettre en place derrière des actions.
Et alors, avant de parler de ce programme de mentorat féminin sur lequel tu travailles, Jean-Baptiste, je propose d'écouter un peu de musique et nous allons écouter Elsa Soares, disparue il y a peu de temps, et on se retrouve tout de suite dans la Méridienne sur Radio Campus Tours.
coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto.
Chega!
O mundo é esse, eu me pergunto.
Chega!
Quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto.
A partir de agora a terra é plana. 2 + 2 são 7, aquilo vale 700 gramas. Terrorista será aquele que não bota veneno na sua mesa ou na plantação. Heróis laureados serão os que contaminam, adoecem, matam mais rápido a população. Sem saúde e educação se faz um povo mais feliz e avançado. Esse é o novo mundo, esse é o meu recado.
Chega!
Que mundo é esse, eu me pergunto?
Chega!
Quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto.
Chega!
Que mundo é esse, eu me pergunto?
Chega!
Quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora eu grito, eu acredito. Então,
me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer?
Me dê motivo.
Vai embora em outro lugar.
Me dê motivo.
Vai deixar meu país pra lá. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto. Vai embora em outro lugar. Vai deixar meu país pra lá. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto.
O negócio é o seguinte, negociata total. O patriota agora nem vende o aluno do país. O novo patriota cede gentilmente as terras e as almas do seu povo pra América do Norte. Eu quis dizer outra coisa, mas é isso mesmo que eu não pretendia dizer. Não, calma, peraí. Esse arquivo era pra ser secreto. Se tem decreto, pra que debates? 30% de 100 dá 3 chocolates. Aposto o meu doutorado na faculdade americana. Me engana que eu gosto, me manda que eu posto. Se a reforma não passar, não vamos ter dinheiro pra contratar. Se a reforma não passar, o Brasil vai quebrar.
É muito blá 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 blá. É tanto blá 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 blá. É muito blá 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 blá. Então,
vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer?
Me dê motivo.
Vai embora em outro lugar.
Me dê motivo.
Vai deixar meu país pra lá. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto. Me dê motivo.
Et voilà, c'était Elsa Soares sur Radio Campus Tours. Je suis en studio avec Jean-Baptiste Reblay, métier culture. Voilà, donc ça y est, nous allons parler de ce programme de mentorat féminin affranchi. Donc cette année, c'est la première édition, je crois. Peut-être que tu veux nous rappeler la genèse de ce projet, puisque tu as expliqué tout à l'heure que vous aviez une émission d'enquête et d'observation. Alors je suppose que l'Affranchi n'est pas venu comme ça, mais qu'il y a eu tout un travail avant.
Effectivement, donc on vient d'achever la première édition, mais effectivement Affranchi il ne naît pas de rien, et il naît effectivement d'une enquête qui a été menée en 2019-2020 par le collectif HF Centre-Val de Loire, donc un collectif qui milite pour l'égalité professionnelle dans le secteur de la culture en région Centre-Val de Loire. Donc cette enquête, elle a été réalisée donc par le collectif via Ecopia, donc voilà, qui est un organisme qui est chargé de l'enquête et des financements de métiers culture. Et donc cette enquête, elle met en lumière, des constats assez affligeants sur les questions d'égalité professionnelle dans le secteur de la culture, puisqu'on a très peu de femmes sur des postes à responsabilité dans le secteur de la culture en région. Quand je dis postes à responsabilité, voilà, ce sont les postes de direction, de programmation, de responsable, voilà, que ce soit responsable technique, où là, il n'y a que très très peu de femmes, hein. Je pense qu'on est autour de 10% de tête. Voilà, donc majoritairement beaucoup plus d'hommes sur ces postes de cadres. Il y a deux fois plus d'hommes cadres que de femmes dans le secteur de la culture en région. Et le constat est d'autant plus amplifié lorsque la structure est grande en termes de budget et en termes de salariés. Bon, on a d'autant moins de chances d'avoir une femme à... sur ces postes-là ou à la direction de ce type de structure-là. Donc ce sont des constats voilà, assez importants qui ont été faits. Et donc l'enquête est disponible voilà, sur le site du collectif HF, si vous voulez des chiffres un petit peu plus précis et des constats un peu plus importants dessus.
Et donc à partir de ce constat, comment s'est mis en marche le projet Affranchi?
Et bah du coup, fort de ce constat-là, voilà, à Métiers Culture et à la FRACAMA, donc la Fédération Régionale des Acteurs de Musiques Actuelles qui porte Métiers Culture, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour essayer de contrecarrer sur du moyen long terme ces constats-là. Et donc, nous est venue à l'idée de monter un programme de mentorat féminin en se basant sur l'exemple de choses qui se faisaient déjà dans les secteurs des musiques actuelles, comme le programme WAC, qui est un programme effectivement de mentorat féminin au niveau national qui est porté par la Fédélima. Donc on a beaucoup travaillé avec la Fédélima pour monter notre propre programme au niveau régional avec nos spécificités, voilà, puisqu'Affranchi numéro 1 était sur le spectacle vivant, pas que sur les musiques actuelles. Affranchi numéro 2 sera sur l'ensemble de la culture, et donc on a voulu mettre en place ce programme là suite à des échanges du coup avec la Fédélima.
Et alors, ce première édition d'Affranchi, alors il y avait combien de participantes, puisque c'était des binômes mentor-mentorés, comme tu viens de l'expliquer. Est-ce que tu peux nous en dire plus qui étaient ces Affranchis première édition?
Oui, alors du coup, donc le programme, on a constitué 8 binômes, donc de 16 personnes, donc des binômes de mentors et de mentorés, donc qui ont été construit sur la base de 2 appels à candidature, un pour être mentor et un pour être mentoré. Et suivant les réponses aux appels à candidature que l'on a eus, on a fait un matching, voilà, associé des personnes qui avaient candidaté côté mentor, dont le parcours professionnel de candidate mentor résonnait avec le projet professionnel d'une candidate mentorée. Donc on les a rapprochés, on a fait un matching là-dessus. Donc nos binômes cette année... Pour cette première édition, on a eu pas mal de binômes plutôt dans les musiques actuelles, un binôme sur les radios associatives notamment, un binôme sur label d'édition musicale, d'autres qui sont plutôt sur des fonctions de direction, d'accompagnement dans le spectacle vivant. On avait un binôme aussi théâtre, un binôme de metteuse en scène cette année. Voilà pour les binômes, un binôme plutôt sur le poste booker aussi, de chargé de diffusion. Voilà un petit peu pour les binômes auxquels je pense. Voilà, et donc elles ont pu échanger pendant un an dans le cadre de rendez-vous mensuels en binôme confidentiel, gratuit, sur la base du volontariat, pour pouvoir échanger notamment sur le projet professionnel de la mentorée. Et la mentor a pu apporter son expérience du secteur, son réseau pour aider le projet professionnel de la mentorée à se développer. Et il y a eu également des temps collectifs de formation sur qu'est-ce que le mentorat, parce que c'est pas simple de se situer dans cette relation. Une relation de mentorat, c'est pas une relation de copines, c'est pas une relation hiérarchique, donc il y avait besoin de former autour de ces questions-là aussi. Et il y a également eu des petits temps d'ateliers thématiques. Cette année, il y a eu un atelier sur les questions de légitimité professionnelle, puisque c'est un sujet qui préoccupait et que les binômes avaient envie d'aborder tous ensemble. Donc il y a eu aussi un atelier sur les questions de charge mentale. Voilà un petit peu pour vous faire un résumé de ce qui a pu se passer cette année.
Alors, évidemment, je ne résiste pas à te poser cette question, puisque tu disais qu'il y a quand même peu de femmes en région centre sur des postes à responsabilité. Un atelier sur la légitimité professionnelle. Alors, est-ce que c'est difficile de trouver des mentors? Parce que je ne doute pas qu'il y ait plein de femmes très compétentes capables d'être mentors, mais est-ce qu'elles se sentent légitimes pour postuler d'elles-mêmes pour être mentors?
Et ça, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Donc, l'an dernier, on a eu quand même pas mal de candidatures de mentors, mais effectivement, j'ai eu aussi pas mal échangé en amont des réponses à les appels à candidature avec certaines candidates qui ne savaient pas si elles devaient postuler côté mentor ou côté mentoré. Donc moi, la lecture de leur expérience et de leur CV, pour celles qui doutaient de leur capacité à être mentor, je les ai souvent quand même renvoyées vers le formulaire pour être mentor, celles qui étaient dans ces situations-là bénéficiaient quand même d'une expérience professionnelle solide dans le milieu de la culture. était sur des postes à responsabilité, donc elle n'avait aucune raison de douter d'elle-même et de postuler côté mentor. Et du coup, pour essayer de lever un petit peu ces freins pour les candidates mentors, on organise cette année deux webinaires pour l'ouverture des appels à candidature. On organise deux webinaires justement pour lever ces freins le 14 mars à 18h et le 4 avril, je crois, à 18h aussi, pour répondre aux questions, notamment des candidates mentors, et essayer de lever ces questions de légitimité.
Voilà, donc vous pouvez retrouver ces liens pour vous inscrire sur le site web Métiers Culture. Et alors, sur ces, puisque tu dis un parcours solide, c'est à partir de quel moment on peut légitimement se dire qu'on a un parcours professionnel solide, suffisant pour être mentor ?
Je ne sais pas s'il y a un parcours type, on va dire, solide pour être mentor. Moi, ce qu'on regarde, c'est surtout, on va dire, un certain nombre d'années d'expérience dans le secteur de la culture. Être plutôt sur un poste à responsabilité, mais pas forcément. Disposer d'un certain réseau aussi au niveau régional, pour faciliter la mise en réseau de la mentorée qu'il y aura en face. Donc c'est un petit peu une approche globale. On va regarder aussi peut-être si la candidate mentorée elle a pu, créer une structure aussi. Donc je dirais pas qu'il y a un profil type de mentor, mais on va dire, c'est quand même une dizaine d'années d'expérience à peu près dans le secteur de la culture, et après... sur des postes à responsabilité, mais pas que. Avoir une petite expérience de création, ça peut être intéressant, mais pas forcément non plus. Enfin, on est quand même assez ouvert là-dessus, et c'est vraiment cette résonance entre ce parcours professionnel d'une candidate mentor avec le projet professionnel d'une candidate mentorée qui va faire qu'on va associer les deux, parce que dans certains cas, c'est assez évident d'associer deux personnes.
Et alors, est-ce que tu dirais que ce programme affranchi, c'est une démarche féministe ?
Ça se veut. Ça se veut féministe, évidemment, parce que on souhaite qu'il y ait plus d'égalité professionnelle à travers ce programme d'ici quelques années. Alors, c'est plutôt à moyen et long terme qu'on va mesurer les bénéfices de ce programme-là. Après, affranchi, ça permet aussi, notamment par les ateliers, d'offrir un cadre safe, parce que les ateliers ont lieu en non-mixité, et tout peut être dit, elles peuvent toutes échanger sur leur place en tant que femmes dans le secteur, donc ce qui va créer une notion de sororité assez forte et d'entraide entre les participantes de notre programme.
Voilà, et est-ce que je suppose que non, bien sûr, mais est-ce qu'il y a eu des réactions plutôt masculines, en fait, sur ce projet, de dire « oui, encore un truc pour les femmes, nous aussi, on a besoin d'aide » ou je sais pas quoi ?
Pas du tout. Moi, j'ai pas reçu ce type de réaction-là, et d'une certaine manière, j'ai envie de dire tant mieux, voilà.
Voilà, donc si vous le pensez, ne le dites pas, c'est mieux. Je propose justement qu'on les écoute, ces mentors et mentorées, et je propose d'écouter une vidéo, et oui, les vidéos ça s'écoute aussi, que l'on trouve sur le site Métier Culture, où on entend justement ces femmes, et au passage on fait un coucou à Viviane Behrer, mon homologue de Radio Campus Orléans, et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tours.
Alors Affranchi, c'est un programme de mentorat exclusivement féminin en région Centre-Val de Loire. Il a pour but de mettre en relation des femmes qui sont sur des postes à responsabilité, avec pas mal d'expérience, avec des jeunes débutantes dans le secteur.
Ça permet d'apporter des exemples de réussite féminine dans le secteur professionnel, et l'objectif est d'encourager d'autres femmes à postuler à des postes à responsabilité, de montrer l'exemple et de montrer que toutes les femmes peuvent y arriver, peuvent réussir. Il y aura bien une deuxième édition du programme de mentorat Affranchi.
Je me suis dit, tiens, c'est ce qui m'a manqué quand j'étais jeune et que j'ai commencé dans le métier, quelqu'un qui pourrait m'apporter des conseils et me faire part de son expérience.
Je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de tisser un nouveau réseau et de rencontrer de nouvelles personnes.
J'ai une oreille attentive. À chaque fois que j'ai une question, un doute, je me sens beaucoup moins seule dans ma façon d'avancer. C'est une béquille, quoi.
Il est temps qu'on s'affranchisse, on assume complètement les postes qu'on a dans le milieu de la culture.
Il y a cette idée de force et de combat, quoi. Les affranchis, c'est des combattantes, quoi.
Bien,
franchi, c'est quand même fort et c'est lourd d'histoire. C'est quand même des personnes qui se sont dit haut et fort. C'est un peu une mise en avant de notre liberté en tant que femme.
Et il y a des témoignages qui ont été livrés dans nos temps collectifs qui sont très forts.
C'est des moments de partage assez intenses où on se livre les unes les autres aussi et on se confie. Voilà.
Ça change la manière de voir les choses, ça nourrit mes réflexions, ça me donne des idées pour des nouveaux projets.
Si je n'étais pas rentrée dans ce programme, où est-ce que je serais aujourd'hui, et je pense que ce serait vraiment différent. C'est sûr que ça m'a évité les petites erreurs, le parcours sur le chemin.
Le sentiment d'être utile et de pouvoir aider quelqu'un qui est dans un moment de son parcours qu'on a déjà nous connu.
Bah, il a déjà influencé mon parcours puisque du coup on est à la moitié et qu'au bout de 6 mois j'ai changé de poste pour un poste plus conséquent.
Moi ça vient toucher beaucoup de choses. Beaucoup plus que prévu. Pour moi, ça dépasse complètement le cadre professionnel.
C'était une très belle rencontre, c'est encore une très belle rencontre. Je suis ravie de l'avoir rencontrée via ce programme.
Je suis honorée qu'on ait pu entamer cette relation de mentorat ensemble.
Merci parce que c'est une belle rencontre.
Et on entend Fanny Landais à la fin de cette vidéo qui est émue par ce dispositif affranchi. Qui est Fanny Landais ?
Fanny, c'est la coprésidente de la FRACAMA, donc la Fédération Régionale des Acteurs des Culturels et Associatifs Musiques Actuelles de la région. Donc comme je le disais, qui porte la plateforme Métier Culture notamment, et donc le projet affranchi.
Et donc quel était le binôme de Fanny Landais ?
Alors Fanny, elle était en binôme avec Jeanne Préselin, elles ont pas mal échangé donc autour un petit peu de l'édition phonographique, puisque Fanny est également responsable des partenariats chez Baco Records, et Jeanne était, je crois, bénévole à l'époque, c'est ODG Prod, donc un label de Tourangeau, je crois, de dub et de reggae, et du coup, à la lecture de leurs deux profils, ça nous semblait assez évident de les associer, de se dire qu'elles auraient sans doute des choses à se dire et à s'entraider.
Voilà, donc on rappelle à nos auditrices, et peut-être à nos auditeurs qui voudront passer le message à leur entourage, que l'appel à candidature pour la deuxième édition d'Affranchi débutera, donc c'est le 14 mars, et les candidatures se clôtureront le 30 avril 2022 à minuit. Très précisément. Alors Jean-Baptiste, est-ce que tu veux rappeler comment on fait pour candidater à Affranchi ?
Oui, il y a plusieurs possibilités. Toutes les infos et les formulaires pour postuler côté mentor ou mentoré, il y aura évidemment deux formulaires, seront disponibles le 14 mars sur le site de Métier Culture, donc www.métier-culture.fr, et vous pouvez également suivre la page Facebook d'Affranchi, sur lequel évidemment seront publiés ces deux appels à candidature. Il y a un petit formulaire à répondre si on veut être mentor ou mentoré. Et ensuite, après le 30 avril, nous passerons à une phase de lecture, des candidatures et de premiers rapprochements. Et se suivra des entretiens pour les candidates retenues, pour qu'elles puissent au moins échanger une fois avant de se lancer dans l'aventure affranchie qui démarrera en septembre 2022.
Et donc on rappelle que pour cette deuxième session, c'est bien toutes les disciplines de la culture.
Exactement, la première année était spectacle vivant, cette année elle sera sur l'ensemble des champs de la culture, donc si vous êtes une personne qui travaille dans le champ des arts visuels et des arts plastiques, vous pouvez évidemment postuler cette année, aussi dans le livre, toutes les disciplines artistiques et culturelles sont admises cette année pour postuler à Affranchi.
Et donc, comme c'est un projet régional, évidemment que c'est ouvert à tous les départements et pas seulement à Tours et Orléans.
Et oui, évidemment, bien sûr, il faut être une femme ou se sentir femme pour postuler et habiter et travailler en région centre. Donc que ce soit pour le Cher, l'Indre, l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire ou le Loir-et-Cher ou le Loiret, pour tous les citer.
Et donc, je pense que ça a une certaine importance, tu as dit, femme ou se sentir femme. Donc ça veut dire que les candidatures sont ouvertes aussi peut-être aux personnes non-binaires.
Exactement, on essaie de communiquer pour toucher un petit peu plus ce public-là, parce que ça nous tient pas à cœur aussi de pouvoir faire bénéficier de notre programme à ce public-là qui a peut-être des difficultés d'insertion professionnelle encore plus renforcées de par leur genre et leur non-binarité.
Merci à toi, Jean-Baptiste. Donc, nous allons faire une nouvelle pause musicale. Alors, voilà. Je tends le bras pour cliquer sur la souris et nous allons écouter Sheikha Rimiti, voilà, noire, en avant pour l'Algérie, aussi une superbe voix féminine.
Yeah.
Et voilà, vous venez d'entendre de Sheikha Rimiti sur Radio Campus Tour, noir, fantastique voix d'Algérie. Est-ce que tu connais Sheikha Rimiti, Jean-Baptiste ?
Pas du tout.
Quelles sont tes artistes féminines préférées ?
Sur la techno, il y en a pas mal qui sont plutôt très bien. J'aime beaucoup ce que fait Chloé, par exemple, donc une DJ de techno. Anja Schneider aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de femmes sur l'esthétique de la techno dont j'apprécie le travail.
Voilà, donc on renvoie nos auditeurs vers ces artistes. Peut-être qu'elles sont dans nos playlists. Je demanderai à mon collègue Sébastien ce qu'il en pense. Voilà, et bien, chers auditeurs, je vous propose à présent d'écouter nos camarades de la bibliothèque municipale. Voilà, ils nous préparent des chroniques tous les mois à écouter dans la Méridienne. Alors, cette fois-ci, ils vont nous parler d'une série Netflix. Et oui, hein, personne n'est parfait. Ils regardent Netflix, nos bibliothécaires, et ils nous parlent d'une série qui s'appelle Unorthodox, voilà, qui est inspirée du roman Unorthodox de Deborah Feldman, traduit par Michel Laporte. Merci à vous, bibliothécaires. On vous écoute dans la Méridienne sur Radio Campus Tour. Ah, si je coupe pas la musique. Bon, alors je me suis ratée, chers auditeurs. Excusez-moi. Donc voilà, je tente de manier ce nouveau studio. Donc je vais tenter de vous retrouver cette chronique des bibliothécaires. Voilà. Patience, nous allons nous en sortir. Alors, je disais donc une chronique des bibliothèques de la bibliothèque municipale de Tours, puisque nous avons la chance de retrouver les bibliothécaires régulièrement. Donc, ils nous proposent des chroniques sur des CD, des BD, des romans, les événements qu'ils organisent. Voilà, l'idée, c'est de vous faire découvrir tout ce qu'il se passe à la bibliothèque municipale de Tours, car non, les bibliothèques ne sont pas des lieux poussiéreux où il ne se passe rien. Il y a énormément d'actions qui sont proposées dans le réseau des bibliothèques municipales de Tours. Il y a des nouveaux biens culturels qui arrivent régulièrement et les bibliothécaires se chargent de vous les faire découvrir, entre autres par ces chroniques. Donc ça y est, j'ai retrouvé le son que je voulais vous proposer. Alors nous allons enfin écouter cette chronique sur Unorthodox et on se retrouvera juste après pour se souhaiter une bonne journée.
Alors c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises, bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com.
.com.
Je voudrais parler de Popeye. Donc maintenant, je vais vous introduire Guillaume, que vous connaissez peut-être déjà, qui travaille en section musique et cinéma, qui vous parle souvent de vinyle et de plein d'autres choses. Et là, je crois qu'il va vous parler d'un livre. Et donc, pour faire le lien, je vais vous parler de ce livre que je n'ai pas lu par le biais de la mini-série qui est passée sur Netflix au début du confinement qui s'appelle Unorthodox et qui est vraiment extraordinaire. Extraordinaire par le jeu de l'actrice qui est absolument fabuleuse. Et voilà, donc forcément, avec un titre pareil, vous vous doutez peut-être que ça parle un peu de religion et de tout ça. Et donc, Guillaume va se faire un plaisir de vous expliquer.
Je vais vous parler du livre. Je vais tout vous expliquer. Oui, n'étant pas aussi sectaire qu'on pourrait le croire, pour une fois, j'ai délaissé la musique pour la littérature et pour les histoires vraies, parce qu'il s'agit d'une biographie, en quelque sorte. J'ai découvert cette histoire par le biais de la série télévisée également et elle m'a donné l'envie d'en savoir plus et donc de lire le livre. Donc Deborah Feldman, qui est l'autrice de cet ouvrage, elle décrit sa jeunesse au sein d'une communauté juive orthodoxe, ultra-orthodoxe, mais hassidique, communauté Satmar, donc qui est dans le quartier de Brooklyn et plus exactement dans Williamsburg en fait, qui est le petit pâté voilà où tous ils habitent.
Nous sommes à New York.
À New York, ouais. Et Et elle décrit d'une façon étonnante cette communauté, puisqu'elle ne partage absolument pas sa façon extrêmement particulière de vivre. Et très jeune, elle a développé une idée fixe, c'est de s'en extraire. Malgré tout, elle n'a pas pu le faire aussi vite qu'elle aurait souhaité, ce qui fait que, bah, et quelque part, c'est pas un roman d'initiation, mais en tout cas une histoire d'initiation. Elle a vécu et elle nous décrit toutes les étapes par lesquelles la vie d'une femme passe dans cette communauté. On va dire la perte de l'innocence, ensuite la préparation au mariage qui est arrangé avec un homme qu'elle ne connaît pour ainsi dire pas, et ensuite une vie matrimoniale qui est essentiellement réglée par des devoirs religieux et des prescriptions liées à son état de femme pure ou impure, c'est-à-dire liée à son cycle menstruel, et à l'idée fixe et capitale pour ses proches, c'est avoir des enfants. Et elle combine plusieurs handicaps depuis qu'elle est toute petite. C'est que déjà, la religion a une grande place pour sa famille, mais elle, c'est pas forcément quelque chose qui lui parle. En tout cas, beaucoup moins que les livres qu'elle va chercher un peu en loose day à la bibliothèque du quartier parce qu'elle n'a pas le droit de les lire. Elle est également frappée du sceau infamant d'avoir des parents qui détonnent au sein de cette communauté, puisque son papa, d'après ce qu'elle nous en dit, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et qui, en tout cas, ne s'est jamais investi dans la vie de famille, donc est un peu un étranger pour elle. Et sa maman, elle est partie très, très tôt. Donc déjà, elle a quitté la communauté et en plus, elle l'a quittée pour vivre une histoire d'amour avec une autre femme. Donc, elle est déjà regardée de travers à cause de tout cela. Et donc, elle subit au quotidien l'oppression de ses règles de vie et puis de cette espèce d'ostracisme dont elle est frappée. Et ça contribue également à lui donner l'envie de partir. Alors, c'est un livre qui est étonnant parce que on voit bien tout ce qui lui pèse, tout ce qui lui déplaît dans sa vie de tous les jours, mais en même temps, pour autant, elle ne hait pas les gens qui l'entourent. Elle parle même de bons moments. Un excellent exemple, il est fourni par les relations qu'elle a avec son mari, qui sont pas très marrantes. Il y a des choses pour lesquelles, que je ne dévoile pas là pour ceux qui souhaiteraient lire le livre, mais qu'elle lui reproche. Mais malgré tout, elle ne fait pas l'impasse sur les moments de complicité qu'ils ont pu partager. Et je trouve que donc, il y a quand même une certaine nuance dans sa façon de dépeindre tout cela. On comprend que c'est sa vie. Même si elle a souhaité en changer radicalement, il y a quand même énormément de choses qui l'ont construite et auxquelles elle demeure attachée, même depuis son départ de la communauté. L'intérêt de la série Netflix, et c'est là où notre mascotte Framboise va intervenir pour chroniquer avec moi, est intéressante, c'est qu'elle... Alors, Deborah Feldman a elle-même participé à l'écriture de la série, et à l'aide des autres auteurs et de la réalisatrice, elles ont convenu que le livre en lui-même était très difficilement adaptable. En partie parce qu'il est vrai qu'elle s'appesantit beaucoup sur certains détails, certains faits, et que cinématographiquement, ça ne porterait pas. Donc, il y a toute une partie dans le film qui, en fait, décrit sa vie après sa fuite, sa vie qu'elle va passer à Berlin pour essayer de se reconstruire et de retrouver sa mère qui habite là-bas. Elle est totalement fictionnelle. Donc, elle a été créée, écrite... vraiment pour la version, j'allais dire cinématographique, mais oui, c'est la version télévisuelle. Et c'est intéressant de pouvoir comparer le livre d'une part et son adaptation, très libre dans un certain sens, parce que du coup, elle met en lumière de façon très allusive des choses qui sont détaillées dans le livre, et les deux types de narration se font écho. Et donc, c'est enrichissant de regarder l'un après avoir lu le livre, ou vice-versa. Moi, je suis venu au livre après la série. À savoir aussi qu'il y a quand même une part visuelle pas négligeable dans le bouquin. Je pense que dans l'édition française, c'est pareil. Mais dans l'édition américaine, oui. Il y a beaucoup de photos de famille dans le livre. Et la première photo, c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça doit être la photo de mariage de ses parents. Donc on voit un petit peu l'évolution de sa vie et de sa personnalité aussi à travers les photographies. Et je trouve que c'est un éclairage qui est intéressant aussi, à sa façon.
Alors, je poserais bien une question à Guillaume. Va-t-il répondre pour ne pas gâcher la lecture des lecteurs ? J'ai cru comprendre en regardant cette série, j'avais pas bien capté qu'effectivement, elle n'allait pas en Allemagne, que c'était vraiment fiction, ça, enfin fictionnel.
Oui.
Mais j'avais cru comprendre qu'elle y allait avec son mari à un moment donné. Non.
Je me souviens pas. Je crois pas qu'ils aient fait un voyage à l'étranger ensemble.
Peut-être pour aller voir
et
sa mère.
Je...
Pas dans le film, mais dans le livre.
Ah non, sûrement pas avec son mari pour aller voir sa mère. Non, non.
Non.
Et
bon, il faut lire le livre, hein, y a pas à dire. Et en plus,
ah bah oui,
le
oui,
bonus,
oui.
C'est qu'on a forcément et la série à la bibliothèque de Tours. Guillaume, il me dit non.
Netflix sort quelques séries en DVD, mais c'est vraiment la portion congrue. Je ne crois pas que celle-ci soit sortie. En tout cas, à ma connaissance, on ne l'a pas.
Alors, je ne veux pas faire de la pub supplémentaire pour Netflix, mais bon, voilà, quoi, on est un peu coincé avec ça. Hein. Tous les cas, ce livre, je pense que je vais le lire, moi, personnellement. Et donc,
J'ai moi-même vu la série et c'est vrai que je n'ai pas lu le livre, pardon. J'ai moi-même vu la série et c'est vrai que je n'ai pas lu le livre et ça m'a donné envie, tu vois, ta présentation, Guillaume, de voir un peu les différences justement entre la série et le livre. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a très bien fonctionné. Je sais, en tout cas, sur la plateforme Netflix, ça a eu un élan assez fort au niveau des auditeurs et des spectateurs.
De n'importe quelle génération, hein, entre...
Ah, j'imagine. Bah oui. C'est susceptible de parler à tous, hein, de toute façon. À savoir aussi que le livre, pour autant que je me souvienne, il est sorti très très peu de temps après qu'elle a quitté la communauté. Et je crois qu'elle avait été conseillée en cela. On lui avait recommandé, quand elle a eu ce projet d'écriture, parce qu'elle s'est aussi émancipée par l'écriture. Au moment où elle a pris sa décision, où elle a vraiment entamé les démarches pour quitter la communauté Satmar. Et donc, le problème qui se posait pour elle, c'était de conserver la garde de son fils, puisqu'elle avait été finalement parvenue à avoir un enfant. Mais elle voulait... ça a été l'élément déclencheur de son matériel, de son départ. Elle voulait lui assurer un avenir libre, voilà, qu'il puisse disposer de son libre arbitre, et donc voilà, partir elle de la communauté, mais surtout l'en faire partir lui aussi. Et de facto, ça aurait été manifestement plus simple de conserver la garde de son fils si l'histoire était largement diffusée et connue, et le livre était une excellente façon de faire connaître son destin, histoire de faire un peu plus de placement de produits pour Netflix. Et il y avait également à la même période, je ne sais pas s'il y est toujours, mais un film documentaire sur le même sujet qui s'appelle One of Us, je crois. C'est un titre comme ça, je crois que c'est ce titre-là, et qui détaille les destins de trois personnes qui veulent également quitter une communauté juive orthodoxe. Et il y a une jeune femme qui est à peu près dans la même... je crois que c'est une mère célibataire. Il y a un jeune homme qui est homosexuel. La troisième personne, je ne me souviens plus. Mais voilà, donc ça n'est pas un cas isolé. Et alors, bon, on ne sait pas si ce livre va amener à une fuite massive à l'extérieur de Brooklyn. Mais enfin, il est certain qu'il a mis concrètement des mots sur beaucoup de choses qui devaient se murmurer au sein de la communauté et voilà, qui n'en ont jamais passé les portes.
Moi, je sais que sur la série, n'hésite pas à intervenir aussi, Framboise, parce que je n'ai pas forcément tout en tête, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais il me semble que sur la série, on la voit juste, c'est une fin ouverte en fait. Là, sur le livre, on va peut-être un peu plus creuser son parcours une fois qu'elle est partie finalement. Parce que c'est vrai que moi, j'avais le souvenir en tout cas de la fin, d'une fin ouverte, où on la voyait assez prête à aller vers une nouvelle vie.
Oui, mais dans la série, elle est enceinte à la fin de
la série
en fait. Ouais. Entre-temps, elle rencontre un charmant jeune homme qui va faire du chant. Elle a chanté à un moment donné d'une voix magnifique et c'est super émouvant parce que là, son mari est venu pour essayer de la récupérer, en fait. Enfin, je pense que les gens à qui on s'adresse, il y en a peut-être pas mal qui ont vu cette série qui a vraiment beaucoup de succès, d'autant que c'est une mini-série. Mélissa ne l'a pas vue.
Dieu, est-ce possible ?
C'est une mini-série de 4 épisodes seulement et c'est ça qui est bien, quoi. Mais par contre, un bon conseil, essayez de la voir, enfin, de l'entendre en anglais, yiddish et allemand avec les sous-titres comme vous voulez, mais vraiment en version originale. Là, ça a toute son importance.
Mais est-ce que c'est fréquent, comment dire, parce que l'adaptation d'un livre au cinéma, bon, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Mais là, livre-série, est-ce que c'est aussi fréquent ? Est-ce qu'il y a des choses un peu tarte à la crème dans ce genre d'adaptation, là où vous dites la fin n'est pas la même ? Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire de ces adaptations ? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres ?
Oui, il y a un bon paquet d'œuvres littéraires qui sont adaptées en série. Alors c'est vrai qu'après la concomitance, mais disons le délai extrêmement court entre la publication du livre ou en tout cas sa diffusion un peu plus large et la mise en production de la série, c'est vrai que c'est rare que ça soit si court. Bon, il y a Game of Thrones qui est un autre excellent exemple puisque l'auteur a écrit presque en parallèle, je crois, une partie de sa saga en livre, alors que la série était en chantier. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les fins soient les mêmes, mais bon, j'ai pas lu les livres. J'ai vu la série, mais pas lu les livres. Donc là aussi, on a une espèce d'exemple pas si courant d'influence réciproque dans le work in progress de la création qui est assez intéressant, il faut dire. Ouais. Mais oui, je pense aussi à Morse, qui est probablement un des 10 meilleurs films de tous les temps, qui est l'adaptation par son auteur même d'un livre qui s'appelle « Laisse-moi entrer », une variation moderne sur le mythe du vampire. Alors, il y a beaucoup de choses tartignoles dans le genre, mais là, c'est absolument formidable, d'une intelligence, d'une délicatesse. Là également, l'auteur du roman, il a spécifiquement retravaillé son texte et son histoire pour le médium cinéma et la temporalité d'un film de long métrage. Donc il y a énormément de sous-intrigues qu'on peut trouver dans le roman, qui est un assez gros pavé, qui sont mises de côté. Et en même temps, il restructure et il densifie le fil narratif principal et les rôles et les interactions des personnages principaux. Et d'ailleurs, ça en fait une des principales richesses du film et probablement son point fort également.
Après, dans les réadaptations aussi, d'adaptations de séries en roman, je sais qu'en section jeunesse, on avait aussi des romans qui sont apparus aussi, notamment sur la série Netflix qui s'appelle Grisha. On avait reçu aussi des ouvrages de cette série, en fait, donc c'est adapté. L'avantage et l'inconvénient, à mon sens, c'est que ça fait venir des publics qui passeraient dans un premier temps par l'application et la plateforme Netflix pour ensuite leur faire découvrir le livre derrière qui se cache. Ensuite, là, ça reste après, à mon sens, ça reste peut-être une démarche peut-être un peu trop commerciale. Ce côté, on s'inspire d'une série ou on s'inspire d'un livre. J'ai toujours été un peu ambivalente là-dessus.
Non, je crois que, enfin, tout ce qu'on risque, c'est de trouver une adaptation réussie.
Oui.
Ce qui a été le cas avec Anne of Green Gables, qui a fait Anne with Annie sur Netflix et qui est, enfin, c'est. Alors ça, pour le coup, on a le DVD des 3 saisons. Et là, c'est une réussite complète. Et en plus, qui actualise des thématiques liées à la place de la femme dans la société, à la construction de la personnalité, qui sont déjà présentes dans le bouquin à l'origine, mais qui sont là, remises au goût du jour, on va dire. Et c'est très bien. Il y a beaucoup de réalisatrices engagées qui ont travaillé sur cette série, notamment Patricia Rosema, qui a réalisé un épisode qui avait adapté Tipping the Velvet de Sarah Waters et qui a fait un très beau film When Night is Falling. Ça fait très longtemps déjà, mais
je suis complètement larguée moi avec tout ça là,
merci Framboise. Mais t'as vu la série deux fois, donc ça compense.
J'ai vu l'orthodoxe deux fois, parce que après pour bien saisir en anglais, tout ça. Mais les titres que tu as donnés, Guillaume, en anglais, donc, c'est, les titres sont en anglais ou il y a une traduction française de ces...
Mais les titres sont en anglais.
Oui, d'accord.
Oui, oui. OK.
Bon, eh bien, Framboise, le mot de la fin.
Eh bien, le mot de la fin, c'est nous sommes très contents d'avoir retrouvé Mélissa avec la radio et puis j'espère que vous pourrez en profiter.
Je voudrais parler de Popeye.
Et là.